Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Christ, notre lumière. Christ est notre lumière. Nous allons voir ce soir combien nous sommes fragiles et faibles, mais que nous, avec lui, nous sommes forts, puissants. Amen. Pour cela, on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 10. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans ces vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Donc nous voyons dans ce chapitre que l'apôtre Paul encourage les Corinthiens à ne pas se décourager. Et il veut parler de la manière que vit le ministère de suivre Jésus, le ministère chrétien. Et il va parler des épreuves que nous devons traverser. Est-ce que vous pensez qu'on doit traverser des épreuves ? Oui ou non ? Pourquoi on ne se réjouit pas quand on passe par les épreuves ? Parce que ça fait mal. Pourquoi on ne se réjouit pas ? Puisqu'on sait qu'on doit passer par les épreuves. Et Paul le rappelle ici, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Le seul moment où m'aimer, c'est bon. Persécutés, mais non abandonnés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans chaque épreuve, il y a un échappatoire. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais nous devons passer par ces épreuves. Pourquoi ? Ces épreuves auxquelles sont confrontés tous les chrétiens vont nous aider à manifester la puissance de Dieu à travers l'Évangile. Accessoirement, la prédication de l'Évangile. La prédication n'est pas le but. L'Évangile est le but. La prédication, c'est le moyen. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On cherche à vaincre. Amen. Dans le verset 7, on voit que nous sommes comparés à des vases d'argile, des vases de terre. Ici, on fait référence au corps humain, ce corps si fragile, ce corps qui nous met des fois en difficulté. Quand on n'a pas assez dormi, il est fatigué. Quand on a fait trop de sport, on a mal partout. Quand on n'a pas mangé, le ventre fait mal. Quand on a trop travaillé, la tête fait mal. Ce corps est fragile. Fragile. Et il est fragile. En même temps, c'est le dessein de Dieu puisque c'est lui qui a créé ce corps. C'est lui qui nous a pris de la terre et qui a mis son souffle et qui nous a donné vie. Et nous savons que les circonstances peuvent affecter ce corps. Les vies de tous les jours. Si on travaille dans un milieu où on charbonne, ce corps, il souffre. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. Amen. Excellent. Comment nous, en tant que croyants, nous pouvons avoir un corps qui est comparé à un vase d'argile, mais porter le roi des rois en nous? Quel mystère! Quelle merveilleuse nouvelle! Ce corps qui est tellement complexe, mais tellement fragile, où un rien peut nous couper la peau et saigner, où une chute peut nous briser les os, où un virus nous rendre faible. Et pourtant, c'est dans ce même corps que Dieu choisit d'habiter. Et il appelle cela pour nous, les chrétiens en qui il habite, le temple du Saint-Esprit. Ce temple qui porte un trésor. Alors malgré nos faiblesses, qu'on voit au verset 6, il nous a dit que Dieu a choisi de faire resplendir sa gloire à travers nous. Voilà notre étude de ce soir. Que malgré que nous avons un corps qui est comparé à un vase de terre, Dieu choisit de resplendir sa gloire à travers nous. Resplendir cette gloire, cette lumière qui brille, qui est en nous. Voilà ce que Dieu veut faire. Alors pourquoi ce vase de terre? Peut-être pour qu'on ne s'attribue pas la gloire. Parce qu'on est fort pour dire, je suis fort. C'est moi qui ai fait ça. Surtout quand je vois avec mes enfants, sur le petit dernier, il a commencé à prendre une feuille et faire des additions en prenant la calculatrice. 1 plus 1 égale 2. Et puis viens, papa, regarde ce que j'ai fait. Je suis fort, je suis un génie. Il ne m'a pas dit qu'il a utilisé la calculatrice. Mais c'est un génie pour savoir comment utiliser une calculatrice déjà à son âge. Et nous allons voir comment Dieu a fait briller sa lumière en nous. Au verset 6, il dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » À quel moment Dieu a dit que la lumière brille dans les ténèbres? Qui peut m'aider? J'entends pas. À la création. Qui est d'accord? C'est bon. De la même manière que Dieu a dit que la lumière soit, il ordonne que la lumière soit en nous, dans nos cœurs. Ça veut dire que la lumière qui a su donner l'intelligence à la terre pour qu'elle se forme selon cette lumière qui a été ordonnée par Dieu, c'est la même ordonnance qu'il donne pour que sa lumière soit en nous, dans nos cœurs. N'est-ce pas étrange? La terre de laquelle il nous a pris, dans laquelle il a mis son souffle, et après il ordonne que la même lumière qui a créé ce qui est sur la terre, cette lumière soit en nous. Et ça me fait penser qu'il dit dominer sur la terre, les hommes, dominer sur la terre, dominer. Le plan de Dieu, c'est sa lumière en nous. Amen. Ici, le verset fait référence donc à la création, comment Dieu est capable de changer les choses par l'ordonnance de sa parole qui donne la lumière, qui est lumière. Dieu ordonne que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous voyons au contraste que le Dieu de ce monde, au verset 4, nous voyons que le Dieu de ce monde, lui par contre, il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui appartiennent au monde, afin qu'ils ne puissent pas voir l'éclat de la splendeur de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi veut faire quelque chose et qu'il y a la lumière en nous et que cette lumière a toute sa place, il ne peut pas nous mentir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour aveugler notre intelligence. Il va tout faire pour que nous soyons plus conscients de ce que Dieu fait à travers nous, de qui nous sommes, notre identité. Mais Dieu a choisi de nous donner sa lumière. Il a ordonné, c'est un ordre, c'est un décret céleste. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. Je peux vous donner le texte comme je l'ai écrit, je le lis. Ou je peux mettre une petite dimension prophétique dedans. Ça dépend de vous. Est-ce que vous répondez ou vous ne répondez pas? Donc je répète. Dieu a choisi, malgré tout cela, de mettre sa lumière en nous. Ah, là ça me fait plaisir. Là maintenant on peut aller. Donc, pour nous qui sommes en Christ, de même que Dieu a ordonné à la lumière, que la lumière soit pendant la création, il a ordonné que sa lumière soit dans nos cœurs afin qu'on puisse marcher dans une dimension qui est supérieure à la dimension de ce monde. Nous ne sommes pas des êtres naturels. Lorsque la lumière vient en nous, nous ne sommes plus limités par ce corps. Nous prenons une dimension surnaturelle, au-dessus des choses qui sont des choses qui dirigent ce monde. Voilà ce que Dieu cherche, qu'on puisse comprendre notre identité et qu'on prenne cette lumière qu'il a déposée en nous pour qu'on puisse voir les choses assis à la droite dans les lieux célestes. Donc on ne voit plus de la hauteur d'en bas, mais on regarde les choses d'une hauteur céleste. Le mot lumière parle de connaissance, de révélation. Par exemple, mettre en lumière les choses cachées. C'est-à-dire révéler la vérité sur quelque chose qui échappe au regard des autres. Lorsque Dieu met cette lumière en nous, il nous emmène dans les hauteurs. Et lorsqu'on arrive dans les hauteurs, on voit ce que les gens cachent. On peut les voir d'en haut. Là où l'esprit humain, qui est contrôlé par le Dieu de ce monde, ne peut pas accéder. Parce que ce n'est donné qu'à ceux qui sont en Christ. Mais s'ils ne sont pas conscients de ça, nous aurons tendance à aller chercher en Égypte la solution. Christ, notre lumière. Christ, notre intelligence. Christ, notre sagesse. Christ, notre révélation. La connaissance ici signifie l'intelligence accompagnée de l'expérience personnelle. Ce n'est pas juste une information, ce n'est pas juste un savoir. C'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on vit, qui devient tangible. Ici, on parle de la majestueuse intelligence et sagesse de Dieu révélée. Révélée. Cette majestueuse intelligence existe, cette sagesse de Dieu existe, mais est-ce qu'elle est révélée? On parle de révéler lorsque la lumière est entrée en nous et qu'elle a produit l'intelligence. Voilà ce que Dieu veut pour nous en 2024. Que nous soyons conscients que nous sommes des êtres surnaturels. Amen. Et lorsque cette lumière jaillit et qu'elle devient tangible, on peut parler de gloire de Dieu, la doxa, la présence tangible, perceptible de Dieu. Et c'est ce que Dieu a déjà commencé à restaurer dans ce lieu. Parce que pendant longtemps, pendant quelques jours, à peu près 3 ans, on a un peu regardé ce qui se passait à gauche, à droite. Et à un moment, certains ont gardé le cap, heureusement. Merci à nos leaders. Ils ont gardé le cap. Mais beaucoup étaient tentés d'aller voir qu'est-ce qu'on dit dans les journaux, qu'est-ce qu'on dit à gauche, à droite, qu'est-ce que les gens pensent. Est-ce que d'abord c'est mon problème, ce que les gens pensent? Prendre les journaux pour trouver la vérité. Je fais une parenthèse. Quel est le but d'un journal? Ok. Quel est le but d'un journal financé? C'est bon. Je vous laisse faire votre conclusion. Je ne prends pas l'information que j'ai besoin chez les prophètes de Baal, si je peux le dire autrement. Désolé si vous travaillez dans ce domaine. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Parce que ça, c'est aller chercher les solutions en Égypte. Dieu nous a appelés à vivre dans le surnaturel. C'est notre nature, le surnaturel. Le mot gloire ici, qui vient du grec, dire doxa, signifie donc présence, manifestation tangible ou perceptible de sa présence, honneur, magnificence, une présence chargée comme un poids lourd, heavy presence, on dit en anglais, une présence qui a du poids. Et c'est ce que Dieu a déposé dans ce lieu. On regarde par exemple dans 2 Chroniques 7, on ne va pas y aller, mais le roi Salomon fait une prière et quand il termine, la gloire de Dieu descend, elle se manifeste comme un feu, par un feu qui vient consumer les holocaustes. Qu'est-ce qui se passe? Les prêtres qui sont à côté, ils tombent, la Bible dit qu'ils tombent face contre le pavé, tellement cette gloire qui descend est trop forte, ils ne peuvent pas la supporter. Et dans le Nouveau Testament, cette gloire va se manifester par le Saint-Esprit, qui vient donner la vue aux aveugles. Et qui sont les aveugles? C'est ceux qui ont eu leur intelligence aveuglée. Au nom de Jésus, on n'est pas de cela. Regardez dans Jean chapitre 9, versets 5 à 7. On va voir ce que Jésus va faire et dire. Jésus va dire ceci. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc Jésus fait cette déclaration, il dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ce n'est pas « je suis une lumière de ce monde ». Il dit « je suis la lumière, la principale lumière de ce monde, quand, pendant qu'il est sur le monde. » Ça veut dire qu'il y a un moment qui vient où Jésus n'est pas la lumière de ce monde comme là, parce qu'il a un autre plan. Dit comme ça, ça pourrait porter à confusion. Mais c'est Jésus qui dit « pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant que, c'est très important. On peut courir partout et dire « Jésus est la lumière du monde, Jésus est la lumière du monde. » C'est vrai et faux à la fois. Parce que Jésus a pu dire ça parce qu'il qualifiait pour être la lumière du monde parce qu'il était dans un vase d'argile. Mais au moment où il sortira de ce vase d'argile, il n'est plus la lumière du monde. Il est la lumière, tout court. La lumière va ordonner à d'autres vases de devenir la lumière du monde. Amen. Donc, Jésus va dire dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Qui? Nous qui portons Jésus. Voyez-vous, Jésus, quand il était sur terre, il était la lumière du monde. Il n'y en avait pas d'autre. Pierre n'était pas une lumière. Paul n'était pas encore dans la lumière. Jésus était la lumière, la seule. Mais quand il est parti et qu'il a déposé son esprit dans ses disciples, que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus ? La lumière. Et si on prend exemple sur eux, si on prend ce modèle que Jésus a déposé et qui va dire en plus, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que nous avons reçu la même part que Jésus a utilisée pour opérer sur la terre. Nous avons reçu la même part pour opérer. Nous remplissons les mêmes conditions. Nous avons ce vase de terre. Et ce vase, qui n'a aucune valeur, va porter ce trésor qu'est la lumière pour resplendir la gloire de Dieu. La lumière transforme notre façon de voir le monde. Elle nous donne une nouvelle science de la vie. On commence à voir la vie telle que Dieu veut que nous la voyons. On n'est plus limité. On est soumis à la sagesse et l'intelligence de Dieu, pleinement. La lumière permet un renouvellement de notre intelligence. Elle nous donne de recevoir l'intelligence d'en haut. Elle remet Dieu au centre de notre connaissance. Elle nous donne la capacité de discerner la direction que Dieu veut qu'on ait. C'est ça que la lumière fait. La lumière est une intelligence. La lumière est une science. Et lorsqu'on regarde dans Romains 12, 2, où il nous est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous comprenez mieux ça? C'est-à-dire que le fait d'accepter que Dieu nous transforme par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que Dieu vient nous donner une nouvelle lumière. N'oublions pas que Satan était l'ange de lumière. Donc il a sa lumière à lui aussi. Mais sa lumière produit les ténèbres. Allez comprendre. Donc la lumière va nous permettre de rentrer dans une dimension nouvelle. Et alors, quand on regarde un peu ces vases de terre, ces vases qui portent cette lumière, donc on sait qu'ils sont fragiles, on sait que ça casse facilement un vase, mais lorsqu'on regarde un vase de terre, quelle est sa propriété? J'ai fait quelques recherches pour vous. Donc, ça, c'est fragile, ça casse facilement. Et dans l'Antiquité, les vases d'argile ou de terre étaient des récipients faciles à fabriquer. Tout le monde pouvait en faire. Ils servaient à stocker des aliments, des liquides ou autres. Et selon leur forme et leur taille, ils avaient plusieurs usages. Ils n'avaient pas une grande valeur. Parce que c'est une leçon peut-être d'économie, si tout le monde peut produire la même chose, ben sa valeur descend. S'il y a une ou deux personnes qui peuvent produire quelque chose, la valeur monte. Donc, Dieu est le seul qui peut faire ce corps, mais en même temps, il y en a 7 milliards. Une science d'en haut. Ce corps, aujourd'hui, on le voit, même aux yeux des hommes, on tue facilement. L'ennemi veut faire croire que ce corps qui a été fait par une seule personne n'a pas de valeur. Même si Dieu dit « ce corps est un vase de terre », mais c'est son vase de terre à lui, donc ça a de la valeur. J'explique. Si vous cherchez à acheter une voiture, je ne donne pas de marque, qui vaut peut-être 5000 euros, parce qu'elle a beaucoup de kilomètres, elle est ancienne, pas en très bon état, ou même en bon état. Et vous prenez la même voiture qui a appartenu, par exemple, à Pablo Picasso. Et il a fait un petit dessin sur le tableau de bord quand il s'ennuyait dans les embouteillages. Combien de zéros on peut rajouter derrière? Donc, ta valeur dépend à qui t'appartient. Donc, ils utilisaient donc ces vases pour stocker des aliments, des choses, et des fois des trésors. Donc tu pouvais voir dans une maison un vase, un autre vase, et puis ben, si tu dis, ah tiens, donne-moi un vase, on voit que le propriétaire de la maison dit, oui, prends. Et puis tu approches d'un autre vase, il dit, non, celui-là, touche pas. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un trésor. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne permet pas qu'on touche à ses enfants à cause du trésor qu'ils portent. Donc, c'est ce que nous portons qui nous donne la valeur. C'est la révélation que nous avons qui nous donne la valeur. Et cependant, on va observer qu'il y a quand même un contraste, entre notre fragilité humaine et la puissance divine. Et dans le verset 7, on parle donc de ce trésor qui est porté dans ces vases de terre. Notre faiblesse contraste avec la toute-puissance de Dieu qui réside en nous. Alors, on sait que Dieu est un sage, l'ancien des âges. Il n'y a rien qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. C'est lui qui a créé le corps humain et qui l'a rendu, qui l'a fait comme on est. Complexe, intelligent en fonctionnement, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment le rein est connecté au cerveau, le cerveau à l'orteil, et quand tu tapes le petit orteil, tu as l'impression qu'il ne sert à rien, la tête fait mal. Expliquez-moi ça. Mais en même temps, tu dis, un petit orteil comme ça peut te donner la migraine. Ça montre notre fragilité. Mais en même temps, ce petit orteil donne l'équilibre à tout le corps. Et de ces doigts qui n'ont peut-être pas de valeur à nos yeux, on peut écrire des poèmes qui vont passer des siècles et des siècles. Cette jambe travaillée prend des automatismes et puis vous êtes payé 100 millions d'euros par an. C'est quoi ça? Ça veut dire que notre intelligence est limitée tant que nous n'avons pas compris les modèles que Dieu est en train de nous donner pour qu'on puisse dominer le Dieu de ce monde. Mais l'intelligence qu'il a mis, cette puissance qu'il a mis en nous, rend ce corps indestructible. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu sait que l'intelligence naturelle va regarder comme beaucoup regardent, mais ne vont pas distinguer, ils ne vont pas discerner, parce qu'ils n'ont pas la lumière, que là, c'est un roi qui vient, et que l'ordonnance qui sort de ce roi peut changer les circonstances de ce lieu. Voilà pourquoi on peut rentrer dans des endroits et faire des déclarations et changer complètement l'atmosphère de ce lieu. C'est pour ça qu'on ne va pas se plaindre quand on va dans une salle d'attente, par exemple, et que ça commence à faire du bruit, et on peut juste dire, j'ordonne le silence, et le silence doit venir. Parce que le silence reconnaît l'origine de l'ordonnance. Dernièrement, j'étais en train de faire un zoom avec des amis en métropole qui m'avaient demandé de partager un peu la parole. Et on était trois. Et puis, il y a un chien à côté de chez moi qui se met à aboyer. Mais un bruit. Je dis, mais c'est pas possible. Et ils me disent, mais t'as un chien dans le bureau? Je dis, non, il est juste à côté, dans le terrain à côté. Et naturellement, parce qu'on est surnaturel, je dis, chien, tais-toi. Il a aboyé trois fois, il s'est arrêté. Et puis on a continué. Et ils m'ont rien dit, ah oui, quand même. Mais je préfère essayer, et le chien ne se tait pas, que dire, comme l'aigle qui est parmi les poules, qui voit les aigles voler, et dire, moi aussi je rêve de voler un jour, sans avoir essayé de voler. Comment tu sais que tu peux voler si tu n'as pas essayé de voler? Donc j'ai dit au chien, tais-toi. Le chien s'est tué, j'ai continué, j'étais content. Et en plus, ça donne, vous savez, ça donne quelque chose. Hein, vous savez quand même qu'il y a, il y a une puissance qui sort de toi. Tu dis, ah oui, quand même. Je suis là, Seigneur, merci, tu m'as rempli de cette puissance. Et après, je dis, toute la gloire pour toi. Il ne faut pas oublier. On est facile à dire, c'est moi. Et Dieu confond les sages de ce monde avec cette réalité. On voit un homme comme un autre homme, mais on ne sait pas que ça, c'est un roi. Mais si toi-même, maintenant, tu ne sais pas que tu es un roi, c'est difficile de régner. Et c'est ça que le diable, le Dieu de ce monde, a voulu en aveuglant l'intelligence pour qu'on ne voit pas la splendeur de la gloire de Dieu qui habite en nous. Le trésor est là avant les troubles. Car s'il n'y avait pas le trésor, ces troubles nous auraient terminés. S'il n'y avait pas le trésor en nous, s'il n'y avait pas le trésor dans extravagance, je vous assure qu'on ne serait plus là. Mais comme il y avait le trésor, et qu'il y a toujours le trésor, et que nous sommes le gardien de ce trésor qui a été mis en nous. Ah, Église, on est là pour rester. Parce qu'on sait ce qu'on porte. Qui va dire quoi? Peux-tu venir reprendre l'ouvrier d'un autre? Si lui, Dieu lui a dit, reste là, pose-toi. Ben reste là, pose-toi. Je te paye pour que tu restes là et tu te poses. Si Dieu a dit, extravagance, vous êtes à Saint-Pierre, vous allez vous élargir, ben on va s'élargir bien même, bien, 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 bien. Que le diable entende, on va s'élargir bien. Bien. Et il va... Vous savez qu'on parle de restauration, ça veut dire quoi? Le diable est venu la voler. On va aller le chercher, on va dire, viens, 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 rembourse tout ce que tu as volé et rajoute 7 fois. On va ordonner ça et on ordonne ça maintenant. Il faut arrêter de jouer. Nous sommes remplis de la lumière de Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi on regarde le monde et on dit, ah, quand même, ils sont forts, ils sont riches. Qui est Goliath là dehors? Et David qui est là. Ah, Jésus le temps. L'humilité et la dépendance à Dieu sont les clés pour refléter sa lumière. On va accélérer. Jacques 4, 5 à 6. Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous entendez ça? C'est avec jalousie qu'il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde et qu'il voit la part de son esprit qui est en nous, il est jaloux. Et toi, tu n'es pas heureux de ce que tu portes? Tu es plus conscient de la jalousie de ton voisin que de la jalousie de Dieu? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La clé, l'humilité et la dépendance à Dieu. On ne peut pas passer par d'autres chemins. Dieu se rit des orgueilleux, il leur résiste. Notre Dieu aime se montrer à travers des hommes humbles, qui ne gardent pas la gloire pour eux, mais qui la lui donnent. C'est pour ça que je dis toujours, Seigneur, gloire à toi. Afin que ni toi ni moi ne pouvons confondre que c'est moi-même qui ai fait. C'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Et on voit son contraste dans la suite de ce passage qui dit... Choisir la soumission demande l'humilité. Je dis ceci, choisir la soumission demande l'humilité. On choisit la soumission parce qu'on est humble. Ce passage nous montre que si tu te soumets, c'est parce que tu es humble. C'est difficile quand on n'est pas humble de se soumettre. C'est difficile de regarder quelqu'un qui est en position au-dessus de nous ou à côté, ou dans, peu importe dans ce qu'on fait, et croire que tu es au-dessus. Ce n'est pas ce que tu sais faire qui détermine ta position. Ce qui détermine ta position, c'est ce que Dieu a choisi et ton obéissance. Dieu accorde une grâce plus excellente aux humbles. Cette grâce, c'est la responsabilité d'être un porteur de sa lumière. Celui qui a le mandat de faire connaître les immenses grâces prévues par Dieu pour ceux qui l'aiment. Le tout dans ça, c'est de faire ce que Dieu nous demande et nous soumettre à cela et le poursuivre avec une grande violence, pas violence physique. On se fait violence. Quand on fait du sport, on doit se faire violence. Quand vous commencez un sport et que vous êtes mauvais, vous jouez avec des gens qui se sont déjà fait violence, vous souffrez. Je vous ai déjà raconté comment j'ai perdu l'air quand j'allais jouer avec mes amis au squash. Pourtant, j'avais fait du tennis, et c'est un autre rythme cardiaque. Et au bout de 10 minutes, tu as envie de vomir, t'es mal, la tête tourne. Tu dis, ah, vraiment, je suis faible. Et si tu abandonnes à ce moment-là, tu ne pourras pas goûter au moment où il y a la victoire, juste même une fois, une demi-victoire même, où tu dis, ah, quand même, c'est bon, hein. Je sais pourquoi j'ai travaillé, je sais pourquoi j'ai souffert. La souffrance, quand il y a un but qui est plus grand que la souffrance, ça devient facile. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous quand vous passez par les épreuves. Parce qu'on sait que la gloire qui va venir surpasse tout ce qu'on est en train de vivre. De loin, ça ne se mélange pas, on ne parle même pas de serviette et de torchon. On parle de parure et de torchon. C'est une autre dimension, on n'a pas idée. Ici, on poursuit l'or et les diamants, n'est-ce pas les sœurs? Mais là-bas, les diamants qui sont portés par un collier en or, c'est le même collier qu'on utilise pour faire le goudron. Vous avez vu tous les trous qu'il y a eu après le cyclone? C'est comme si on prend l'or pour remplir les trous. Ça, c'est la gloire qui nous attend. Non, non. Ce qu'il y a ici, c'est moche. Ce qu'il y a sur terre, c'est moche. Dieu m'a fait grâce quand j'avais 5 ans d'apercevoir de loin, dans une vision, le ciel. C'est pour ça qu'on ne peut pas me mentir sur certaines choses. Ce qui est arrivé est glorieux. On n'a pas idée de ce qui arrive. Juste de loin, la splendeur, la lumière partout, aucune ombre. Tout est parfait. Tout a sa place. On ne vit pas pour cette terre. On est passager. Mais quelle gloire que Dieu nous donne de travailler pour lui. Je demande à l'équipe de venir, s'il vous plaît. On peut voir plusieurs exemples qui peuvent nous permettre de manifester cette gloire, de montrer la lumière de Dieu dans nos vies au quotidien. C'est juste pratiquer sa parole, pratiquer le pardon. Pourquoi se fâcher avec quelqu'un? On sait que dans un an, dans deux ans, dans 10 ans, ou même dans l'heure qui suit, on ne va même plus se voir. On se fâche avec quelqu'un sur la route, au point de faire des choses et dire des mots qui peuvent nous attrister le Saint-Esprit, et cette personne ne la verra jamais au fait. Mais on est rapide. Manifester la lumière de Dieu, c'est aussi manifester la générosité. Là, je donne juste des exemples. L'amour pour son prochain. Je veux vraiment encourager l'Église à... Je veux vous encourager à rechercher, avec l'aide du Saint-Esprit, comment je dois manifester la lumière de Dieu. Nous, ici, on va prêcher, on va mettre en place des programmes qui vont nous aider à édifier, nous édifier. On va, par exemple, avoir des moments dans les... Je ne sais pas, qui fréquente les groupes de maison ici? C'est moins de la moitié. Trouver un groupe de maison. On a vécu quelque chose mardi. Chez nous, on mange... Et on mange. On mange avant, on mange pendant, on mange après. On mange la parole et on mange des bons plats. On chante, on prie les uns pour les autres, on encourage, on prophétise. On ne s'ennuie pas les mardis soirs. Et je veux vraiment encourager. Vous savez, c'est des lieux où on grandit, où on échange, où on aiguise ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un temps perdu. Des fois, je suis fatigué, je dis non, aujourd'hui, je ne vais pas faire. Le GRM, le groupe, on se retrouve à quelle heure? Ah, moi aussi, je dois prendre mes deux jambes, ordonner à mes deux jambes à y aller. Parce qu'il y a des moments où, oui, on est fatigué. Mais c'est des endroits que Dieu nous a demandé de mettre en place pour que les lumières resplendissent partout sur l'île de la Réunion. La lumière, elle part d'ici peut-être, mais elle doit se manifester dans plusieurs points lumineux. Qui se rappelle de cette vision? Mais comment elle se manifeste? Si vous prenez un spot pour illuminer un stade, vous aurez la puissance maximale de ce spot. Vous en mettez 16 autour, vous illuminez le stade. Donc c'est bon et je vous encourage fortement, je vous recommande. Trouvez un groupe de maison à côté de chez vous. Si vous pouvez aller qu'une fois dans le mois, allez-y. Mais si on dit qu'on est sérieux dans les promesses que Dieu nous a données, on ne peut pas dire qu'on ne se voit que le samedi soir. On a vu des personnes dans notre groupe de maison commencer un projet qui a été inspiré par Dieu et être reconnu à un niveau national, qui a eu un prix national pour une innovation. Avant de partir, il a appelé un autre homme du groupe, il a dit, viens, j'ai besoin qu'on prie ensemble, qu'on s'accorde. Parce que si deux personnes s'accordent pour demander quoi que soit à leur Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il le fera. On applique seulement, Dieu fait le reste. Et il est parti en métropole, il a eu une récompense nationale pour son innovation. On a des étudiants qui ont voulu aller faire des études, qui n'avaient pas les moyens, les parents n'avaient pas forcément les moyens, ou il y avait des portes qui s'étaient fermées, des portes se sont ouvertes. Il y a des personnes qui étaient oppressées, on a prié pour eux. Arrivés à la maison, plus d'oppression, plus de douleur. Et là, je vous parle de la mardi. C'est les choses qu'on vit dans nos groupes de maison. Ceux qui n'avaient pas de travail, on a prié, ils ont trouvé du travail, et du bon travail. Ceux qui étaient découragés, on a prié, ils étaient encouragés. Hey, mais s'ils reviennent, ils sont découragés. On prie encore. Le diable est un menteur, on prie encore. Même si on doit prier 100 fois, on va prier. Si on peut pardonner 7 fois 77, on peut prier 100 fois. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un manque de foi. On prie. Les flèches sont réelles. Les flèches de l'ennemi sont réelles. On doit prier, on doit déclarer. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes la capacité de porter la lumière. Tu nous donnes la capacité de porter ton Fils Jésus-Christ en nous, par le moyen du Saint-Esprit. Et nous voulons saisir ce temps pour faire un audit de nos vies, venir à nous-mêmes et nous poser les bonnes questions. Suis-je un porteur de lumière? Suis-je un porteur de lumière? Est-ce que je fais partie du problème ou je fais partie de la solution dans les relations familiales? Est-ce que dans l'entreprise, je fais partie du bénéfice ou je fais partie de la perte? Est-ce que je me donne à fond comme si je travaillais pour le Seigneur? Est-ce que dans ma maison, je suis un outil de paix ou un outil de désordre? Est-ce que je suis un outil d'encouragement ou de découragement? Est-ce que je suis un serviteur ou un consommateur dans la maison de l'Éternel? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides par ton Saint-Esprit à nous poser les bonnes questions. Et nous voulons prendre ce temps pour élever ton nom encore, manifester ta gloire sur cette terre. Nous voulons porter l'armure. Parce que lorsqu'on porte l'armure, ce vase de terre devient indestructible. Ce vase devient indestructible parce que nous avons porté l'armure de Dieu qui nous permet de tenir ferme pendant les moments